Dernier chapitre. Le rachat des captifs, la vieillesse de Monsieur Vincent et sa mort, et le rayonnement d'une belle vie. Monsieur Vincent essaya alors de racheter à prix fort les captifs. Le salut d'une âme vaut plus que tout l'or du monde. Des quêtes furent faites dans les églises de France. Les dames de la charité firent des offrandes exceptionnelles. Les sommes amassées furent acheminées à Marseille et les missionnaires, sous la direction de Monsieur Levaché, réussirent à racheter les captifs pour la somme d'1,5 million d'écus, ce qui était considérable pour l'époque. Mais on ne pouvait continuer longtemps. Les Turcs augmentaient leur prix. Devant leur cupidité, Vincent, qui était pourtant toute bonté, se rendit compte qu'il n'y avait qu'une seule manière de leur faire entendre raison, c'était la force. Il prépara, avec l'aide de la duchesse d'Aiguillon, une expédition à Alger, mais il mourut avant d'en voir le résultat. En 1683, Duquesne, commandant la flotte française, parut devant Alger et bombarda la ville. Les Turcs, pour se venger, s'emparèrent de Jean Levaché, l'attachèrent à la gueule d'un canon et, tirant un boulet, le projetèrent à la mer. Pendant les siècles suivants, ils continuèrent leur piraterie à travers la Méditerranée. Ce n'est qu'en 1830 que la France a réalisé le rêve de Saint Vincent de Paul et a fait cesser l'esclavage en occupant l'Algérie. Mais revenons à 1660. Monsieur Vincent commence à devenir âgé. Il a près de 80 ans. Son visage est ridé, ses épaules sont voûtées. Toutefois, ses yeux gardent leur lumière et leur jeunesse. Tous ceux qui l'approchent ont l'impression qu'il lit dans leur conscience. Son regard va jusqu'au fond de l'âme et sa parole touche, émeut, encourage à mieux aimer. Ses jambes, qui depuis le temps où il avait été enchaîné lui ont toujours fait mal, le portent difficilement. Depuis plusieurs mois, il ne peut plus monter à cheval. Pour faire ses courses à travers la campagne, il a dû accepter la carrosse que Mademoiselle d'Aiguillon lui a fait faire. Mais chaque fois qu'il rencontre sur la route un pauvre infirme, il le fait monter auprès de lui. Des lettres lui parviennent de tous les pays du monde. Il passe plusieurs heures chaque jour à faire des réponses toujours pleines de bon sens. Jusqu'au bout, il est fidèle à donner ses conférences aux prêtres et aux religieuses. Il insiste avant tout sur la confiance en Dieu, l'abandon envers la Providence, la nécessité de l'humilité et surtout l'importance d'une charité loyale et intelligente vis-à-vis du prochain. Malgré son âge avancé, il continue à se lever à 4 heures du matin. Se contente de 5 heures de sommeil. Chaque jour, il consacre 4 heures à la prière. Il sent mieux que personne combien les organisations si belles et si nombreuses qu'il a fondées ont avant tout besoin de l'appui de Dieu, le maître des âmes. Agir, travailler, écrire, prêcher, c'est bien, mais c'est seulement la grâce obtenue par la prière et le sacrifice qui convertit les cœurs. Le 15 mars 1660, Louise de Marillac mourait après une courte maladie. Vincent, retenu à la chambre, ne put l'assister comme il l'aurait voulu. Il lui envoya un religieux chargé de lui dire: Vous partez la première, je vous rejoindrai bientôt. Presque au même moment mourait son premier compagnon, Monsieur Portail, avec qui il avait fondé 35 ans auparavant la congrégation de la mission. Elle comptait maintenant plus de 450 membres. En ces 35 ans, que de travail réalisé! Les filles de la charité étaient au nombre de 600. Dans les campagnes et dans les villes, l'ignorance et la misère avaient reculé. Les enfants avaient retrouvé des mères. Les prisonniers étaient visités, les malades soignés. Les galériens connaissaient un adoucissement à leur sort. Le clergé de France était pénétré des maximes du fondateur des conférences du mardi. La paix était revenue et le visage de la France était changé. Vincent, le 26 septembre, ne pouvant dire la sainte messe, se fit porter à la chapelle pour y assister. En remontant dans sa chambre, il demanda lui-même le sacrement des malades. Il resta toute la journée et toute la nuit dans un fauteuil, s'unissant aux prières de ceux qui l'entouraient. Vers 5 heures du matin, le 27 septembre, il expira en baisant le crucifix et en prononçant distinctement ces mots: Confido, j'ai confiance. La reine Anne d'Autriche, en apprenant sa mort, dit: L'Église et les pauvres font une grande perte. Une foule immense assista à ses obsèques. Tous disaient: Nous avons perdu un père. Déjà, on le considérait comme un saint. En 1724, le pape Benoît XIII le déclarait bienheureux et il fut canonisé en 1735. Son corps repose actuellement à Paris, dans la chapelle des Lazaristes, 95 rue de Sèvres, où de tous côtés, on vient le vénérer. Mais sa grande âme est toujours vivante. Elle continue à inspirer à travers le monde des initiatives charitables pour faire face aux détresses humaines. En 1833, un grand chrétien et un grand français, Ozanam, mettait sous sa protection les réunions qu'il avait fondées sous le nom de Conférence de Saint-Vincent de Paul pour soulager toutes les misères. En 1885, le pape déclarait Saint-Vincent patron de toutes les œuvres charitables. 40 000 sœurs, 5 600 religieux continuent sur tous les points du globe la mission du grand apôtre de la charité. C'est par centaines qu'au cours des épidémies ou sous les bombardements, ils sont tombés, victimes de leur dévouement. Plusieurs filles de la charité, plusieurs lazaristes, soit pendant la Révolution française, soit en pays de mission, sont morts martyrs pour la foi. L'un des plus célèbres est le père Jean-Gabriel Perbord. En 1830, c'est dans la chapelle des Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris, que la Sainte Vierge apparut à sœur Catherine Labouré pour lui demander de faire graver une médaille sur laquelle serait inscrite la belle prière. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » En humble fille de Saint-Vincent, sœur Catherine Labouré vécut obscure et inconnue dans la maison des sœurs de la rue de Reuilly, mourut en 1876 et fut déclarée sainte par le pape Pie XII en 1947. Après la guerre de 39-45, un film intitulé « Monsieur Vincent » fut l'un des plus grands succès cinématographiques de l'époque contemporaine. Traduit dans toutes les langues, même en japonais, il fit connaître au monde entier l'une des figures les plus belles de l'histoire. Ami lecteur, qui vient de lire la belle vie d'un saint qui a fait honneur à la France et à l'humanité, demande-lui de t'apprendre à aimer comme lui les pauvres et à te dépenser généreusement au service de tes frères malheureux.